Bienvenue à Dissonance. C'est un projet de balado où on veut principalement explorer des enjeux, des concepts sociaux actuels qui sont surtout, pour la grande partie, polarisants et controversés. Je suis avec...
Moi, c'est Philippe Marcel et moi-même, je suis avec Zachary Bernacci. J'ai hâte de commencer ça. C'est un nouveau projet pour nous puis c'est une nouvelle manière de s'exprimer qui est pas facile à utiliser, mais je pense qu'on va s'en sortir. Cette semaine, on a un premier épisode, puis je pense sans hésiter, on va tout de suite sauter dedans. C'est un épisode qui va parler de masculinité toxique versus une masculinité saine. Petit avertissement qu'on voulait rajouter maintenant qu'on est dans le montage de tout ça. On voulait juste que ce soit clair dès le début. On fait un podcast et on a envie de dire sans prétention, mais on se rend compte que c'est un peu un paradoxe. C'est toujours un minimum de prétention dans le faisage d'un podcast. Mais on voulait que ce soit clair. Donc, on est très ouvert à la critique. On est très ouvert à savoir ce que vous pensez, à savoir ce que vous pensez de ce qu'on dit, que des fois, on va être dans le champ. Puis des
une
fois,
interaction. C'est ça. À se faire ramener sur la ligne.
Oui, puis absolument. Puis on a très hâte de si jamais vous avez des trucs pertinents à nous dire ou impertinents, dites-nous-les, puis ça va être super
drôle. Drôle, pareil. Ouais.
C'est sûr que là, on veut pas s'avancer dans des sujets qui, bon, soit nous appartiennent pas ou sur des enjeux sur lesquels on n'a pas nécessairement un point de vue intéressant, mais je pense que la masculinité, c'en est un où est-ce qu'on a en fait une responsabilité en tant qu'homme, cis privilégié, de prendre la parole parce que il faut, je crois, nous pousser entre hommes à se re-questionner, à se remettre en question, à voir quels comportements sont malsains, puis lesquels est-ce qu'on véhicule de génération en génération, puis d'homme en homme, etc. On peut d'ailleurs peut-être commencer par l'annonce de Gillette, qui est sortie environ 1 à 2 semaines. Donc le court-métrage là, qui invitait les hommes à évaluer leur comportement. Tout ça, en fait, ça parle de masculinité toxique, mais...
ça le nomme jamais vraiment.
Le concept, c'est ça. Fait que c'est vraiment...
C'est une invitation à réfléchir sur ses comportements, réfléchir sur ses notions, sur les valeurs qu'on nous inculque en tant que garçon. Puis, c'est une annonce, en fait, qui a été extrêmement mal reçue. L'annonce a environ 30 millions de vues sur YouTube, puis une... environ 450 000 commentaires qui sont qui portent à la destruction de l'identité de l'homme. Puis je pense que c'était vraiment pas le but de l'annonce. Je pense qu'en tant qu'homme, c'est important de se re-questionner. Je pense que c'est important qu'on puisse en parler. Puis qu'on se responsabilise en garçon, qu'on parle de nos actions, qu'on remette en question de manière collective ce qu'on fait puis ce qu'on dit.
C'est quasiment choquant le nombre de réactions négatives qu'il y a eu par rapport à l'annonce, majoritairement par d'autres hommes. Quoique je dis ça, même que je dis que c'est choquant, en fait, c'est peut-être un fait un peu banal, puis c'est plate de s'en rendre compte, là, mais que les hommes réagissent comme ça à cette annonce-là qui on se dit, était quand même assez soft, mais qui, finalement, ont été perçus comme une attaque envers l'identité masculine, une attaque envers le principe de virilité qui nous est si cher et qu'on chérit tellement. Mais en fait, toutes les réactions confirment pas mal la raison d'être de l'annonce, dans le sens où est-ce que...
Les hommes sont généralement incapables de questionner leur identité comme sociétale ou plus collective, tu sais, se dire... Qu'est-ce qu'un homme? C'est quoi les comportements? Puis bon, on a déjà parlé de tout ça.
Je trouve que l'annonce est un bon point de départ parce que c'est aussi une série. Il faut aller la voir. Là, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Mais le court-métrage, c'est une série d'exemples. Donc, d'exemples de masculinité qui est toxique, de masculinité qui est malsaine. Puis un des points qui, je pense, me l'a plus marqué, c'est tout ce qui est fait affaire avec l'objectification des femmes par des hommes, puis surtout dans les médias, donc dans le divertissement, dans les publicités, comment est-ce que les hommes perçoivent les femmes, comment est-ce qu'ils les construisent. Je pense que c'est un des points qui était les plus intéressants. Parce que c'est quelque chose, je trouve, qui nous touche tous et chacun en tant qu'homme. Je sais que moi, personnellement, dans mon expérience, ça a toujours fait partie de mon expérience, que ce soit l'objectification sexuelle ou l'objectification tout court des femmes. J'avais envie de dire que c'est un processus qui est instinctif, mais...
Mais ce serait de tomber dans le panneau, justement, cette masculinité-là.
Instinctif, c'est le mauvais mot. C'est quelque chose qui est devenu un automatisme pour moi, mais c'est un processus qui m'a été tout à fait inculqué, je crois. Là. C'est quelque chose qui est appris.
Ouais, c'est ça. C'est un bagage, je pense, que c'est très, très culturel. On nous apprend que les garçons vont être comme ça, puis ça fait tellement longtemps que ce comportement-là est accepté que on finit par l'excuser au nom de la biologie quand on n'a aucune idée vraiment d'où ça vient ou de... Ben oui, en fait, on sait d'où ça vient, mais on veut le forger ou le...
Ouais, c'est intéressant donc le fait que ce soit un comportement qui est banalisé là, c'est tout à fait vrai. Puis parce que c'est le mythe de boys will be boys, donc il n'y a rien à faire, que c'est une fatalité, que les hommes seront toujours ainsi, mais je pense que c'est quelque chose qui est faux, puis qui se...
esclaves de leur pulsion.
Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui se révèle de plus en plus faux au fur et à mesure que justement des hommes prennent le temps de questionner leur comportement, puis qu'on voit qu'il y en a qui agissent différemment, qui pensent différemment.
Ouais, exact. Puis de comprendre qu'en fait tout ce qu'on vit par rapport à cette masculinité-là, pas tout nécessairement, mais une grande partie est apprise et non instinctive ou biologique.
Puis je sais que moi, ça fait partie de... Qu'est-ce que je voulais dire dans le sens de que ça fait partie de mon expérience personnelle, c'est que je sais, puis c'est encore le cas aujourd'hui, là. Donc j'allais le dire au passé, mais en fait, encore aujourd'hui, je sais que quand je rencontre des femmes, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit n'importe où, on dirait que mon réflexe, mon automatisme, c'est d'abord d'évaluer le potentiel amoureux, le potentiel sexuel, de les voir, puis de les juger selon leur apparence physique, selon c'est quelque chose qui est troublant.
Ben oui, mais, ben moi aussi, là, c'est...
Mais je pense que c'est le même pour beaucoup d'hommes. Puis le nier, c'est en tout cas, pour nous, en ce moment, je pense que le nier, c'est peut-être quelque chose qui est problématique.
Parce que c'est pas juste de le nier, en fait. Je pense... Non, c'est ça, c'est pas de le nier. Je pense que c'est vraiment juste... C'est là, c'est banalisé. C'est qu'on veut même pas le remettre en question parce qu'on pense ou on sait même pas que c'est problématique, mais... Je trouve que oui, ça l'est parce que...
Oui, c'est problématique parce que je sais qu'il y a une multitude d'autres choses que je pourrais évaluer quand je rencontre une personne qui est une femme. Ça pourrait être son éloquence, ça pourrait être sa créativité, ça pourrait être sa manière de s'exprimer.
C'est... Ou juste d'autres aspects qui sont esthétiques, mettons, visuels, sans que ça tombe dans le corps physique. Ses formes, sa peau, ses yeux. Tu sais, parce que même limite... on nous apprend que le plus petit détail devient un atout sexuel chez la femme. Tout est sexualisé chez la femme. On peut objectifier ses yeux puis tu sais tomber dans en tout cas,
je sais que c'est un réflexe qui est malsain parce que je l'ai pas lorsque je rencontre des hommes, tu sais.
Ouais,
c'est pas du tout la même chose, que c'est pas du tout les mêmes réflexes, les mêmes pensées que je vais avoir lorsque je rencontre un homme, alors qu'en réalité ça devrait l'être. Dans les deux cas, je rencontre une nouvelle personne, puis je devrais pouvoir lui rendre le respect de l'évaluer dans son intégrité, puis dans sa totalité, puis
exactement.
C'est quelque chose qui, comme on disait, nous a été appris. Un des endroits, puis j'ai envie d'en parler parce que je crois que, bon, peu de gens en parlent, mais que c'est un aspect qui est quand même important, pardon, c'est... un des endroits où est-ce qu'on apprend, puis c'est surtout pour l'objectification sexuelle de la femme, un des endroits où est-ce qu'on apprend ça en tant qu'homme, c'est dans la consommation de la pornographie. Je sais qu'on commence tous à un âge qui est surtout ici, là, en Occident ou au Canada, ou whatever. C'est quelque chose qu'on commence relativement jeune, puis que moi, j'ai pas remis en question avant il y a quelques années seulement.
Non, ben moi non plus. Ben, tu sais, en fait, c'est non seulement je pense qu'on a commencé à consommer très jeune de la pornographie, c'est aussi le fait que, je veux dire, ça a jamais été remis en question par personne de mon entourage qui savait, mettons, la complicité entre gars, justement. Cette complicité-là de savoir que tous les gars consomment la porn, mais que finalement, personne n'est capable de s'en parler.
Ouais, puis c'est sur ça drôle que tu dis ça, parce qu'on se dit, en société, surtout au Québec, on se dit la pornographie, c'est tabou, tu sais, on parle de pornographie, c'est tabou. Mais il n'y a pas grand-chose qui est aussi peu tabou que la pornographie, dans le sens où est-ce qu'on accepte que tout le monde en consomme, on accepte que tout le monde en regarde, on accepte que ça fait partie du cheminement sexuel de tout le monde, puis c'est très rare qu'on remette ça en question.
Mais des gars surtout.
Surtout des hommes. Gars. Puis, mais que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes qui la consomment, le problème actuel avec la pornographie, c'est surtout de la manière qui vont illustrer les femmes, qui vont illustrer les relations sexuelles entre hommes et femmes, le rôle de l'homme dans ces relations-là surtout.
Puis ça projette une fiction finalement, quelque chose de totalement irréel, puis ça donne naissance à des fantasmes qui sont vraiment pas très plausibles. En tout cas, dans mon expérience, j'ai été confronté dans certaines relations où la pornographie m'avait enseigné des choses ou m'avait montré des choses, puis finalement, c'est pas du tout comme on pense
Non, absolument.
Sans, c'est des fantasmes. Je veux parler sans trop dans le détail, là, c'est pour ça que je vais.
Mais non, c'est sûr, mais c'est des fantasmes, je crois, qui sont souvent peu plausibles, mais qui sont aussi carrément malsains. T'sais, des fois, ça va pas nécessairement montrer. Les fantasmes qu'on peut en tirer, c'est pas nécessairement quelque chose qui montre une relation d'égal à égal entre homme et la femme.
Non, non, c'est souvent une question de domination, une dynamique de pouvoir qui est installée. Puis de plus en plus, hein, la consommation de la pornographie hardcore, mettons.
Je pense que c'est un fait qu'il y a de plus en plus de consommation de pornographie qui est violente.
Ouais.
Qui montre une domination de l'homme sur la femme dans la majorité des cas. Cette pornographie-là qui est violente, qui est hardcore, devient souvent une base d'éducation sexuelle pour plusieurs hommes. Puis ça va... on le sait, ça augmente le taux de misogynie puis de violence contre les femmes. Ça va normaliser donc la conquête des hommes, le contrôle puis la domination. Puis le fantasme selon lequel toutes les femmes devraient pouvoir non seulement répondre aux demandes sexuelles des hommes, mais aussi les apprécier, même si ces demandes-là incluent l'agression.
On nous expose que ça devrait être ça, le naturel dans les relations sexuelles, que les hommes devraient agir comme ça et que les femmes devraient être à la merci de tous les désirs et besoins. En fait, tout ce qu'on voit finalement, c'est quand l'homme éjacule ou vit son orgasme, c'est généralement la fin de la vidéo. Donc, deuxième sujet, je pense qu'on pourrait aller l'éducation émotionnelle chez les hommes. Je pense qu'en général, ça fait quand même partie de cette culture-là où les hommes n'ont pas le droit de démontrer leurs émotions ou n'ont pas nécessairement le même espace que les femmes ont pour explorer tout simplement, juste mettre des mots sur ce qu'on vit, la tristesse, la colère. Puis moi, personnellement, ça m'a atteint d'une certaine manière parce que, je veux dire, j'ai vécu très très longtemps, jusqu'à très 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 récemment, dans le doute complet de mes émotions, l'incapacité... De mettre des mots sur comment je me sentais, est-ce que c'était la tristesse, la colère.
Moi aussi, je me suis rendu compte éventuellement que mon intelligence émotionnelle était à un niveau très bas.
Niveau zéro, mettons.
Niveau zéro.
Puis tu te ramasses à 19 ans, puis t'as des petits problèmes personnels que tu sens que tu dois régler.
J'avais de la misère à interpréter mes propres émotions, savoir comment les gérer, savoir comment gérer ma tristesse, savoir comment gérer ma colère. Puis la colère, je pense que c'est une émotion qui est caractéristique d'une masculinité qui est pas saine, puis c'est une émotion qui est très souvent mal gérée par les hommes. C'est quelque chose que...
Ça peut devenir dévastateur, la colère, quand c'est mal géré.
Parce qu'à la place de nous apprendre à la gérer ou nous apprendre à la comprendre ou savoir d'où elle vient, on nous indique plutôt que c'est mieux la canaliser ou de l'extérioriser.
Ou pas de le faire. En fait, on n'en vit pas ou c'est normal qu'on en vit, tu sais. De dire, ben non, l'homme est colérique, tu sais, à la base. Mais, tu sais, ça aussi, c'est boys will be boys, tu sais. Les hommes sont comme ça, tu sais. Ils ont de la misère avec leur émotion parce qu'ils ont de la misère avec leur émotion, puis on pousse pas notre réflexion par rapport à ça. C'est biologique, encore une fois, puis c'est totalement faux. Tu sais, je suis pas outillé nécessairement. Je commence à développer de plus en plus, tu sais, une intelligence émotionnelle, comme tu dis. Je pense que c'est vraiment le bon terme, tu sais, parce que. Souvent, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise, mettons, discuter avec des filles de certains sujets un petit peu plus personnels quand je vais sentir chez mes amis garçons ou chez des garçons plus vieux, des hommes, aucune écoute, une incapacité de comprendre dans quelle position je suis. Puis, sensible comme je suis et sensible comme t'es, j'imagine, c'est facile de tomber dans l'autodestruction quand on sait pas comment gérer ces émotions-là. Puis, comment connecter ces émotions-là à une communication entre garçons? Je pense que ce serait intéressant de le faire parce que davantage, on individualise les garçons dans ces positions-là, puis ils ont de plus en plus de difficultés à gérer leurs émotions, puis on n'en discute tout simplement pas entre garçons. Je sais pas pour toi, mais moi, dans mon cas, j'ai rarement été à l'aise d'être vulnérable devant des hommes, devant des garçons, même devant mon père. Tu sais, ça a été toujours une fierté pour moi de pouvoir comme suppresser ces émotions-là, puis de me montrer vainqueur et non vaincu de mes émotions, atteint d'une certaine fatalité ou d'une certaine situation où j'avais pas nécessairement beaucoup de pouvoir. Puis le fait de me sentir froid ou de me sentir comme sans émotion là-dedans, ça me donnait, tu sais, une fierté, cette fierté masculine-là, justement.
Oui, mais je pense que d'abord, comme tu dis, il y a une incapacité à prendre refuge chez d'autres hommes, à se confier, à chercher du réconfort chez d'autres hommes, même aller chercher des fois, on va tomber dans un autre sujet, mais d'être capable de démontrer de l'affection, de la douceur,
ouais.
Être capable de se réconforter de cette manière-là. Puis oui, c'est vrai qu'on tire une fierté à être au-dessus de nos émotions même. Puis en fait, peut-être plus, encore plus malsain que ça, je pense qu'on détient une honte à avoir des émotions, à avoir des émotions qui sont profondes ou à avoir des émotions qui nous touchent particulièrement. C'est quelque chose qui devient honteux, ça devient honteux de pleurer, ça devient honteux d'être faible, d'être vulnérable, c'est le mot
que tu as. Autrement dit, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas nécessairement de... En fait, le simple fait d'avoir des émotions, ce serait... Tu sais, on est fort, on ne vit pas des émotions, pas juste on les montre pas, là. T'es vraiment dans comme...
Oui, je pense que souvent même, on ridiculise entre hommes le fait d'avoir des émotions, le fait d'être émotionnel, c'est quelque chose qui nous appartient pas, c'est quelque chose... On se croit vraiment au-dessus de ça.
Ouais.
Puis c'est, je pense que c'est là l'erreur fatale, mais...
Ouais, parce que ce serait comme de démontrer une certaine faiblesse, tu sais, vu qu'on associe ça, tu sais, surtout les femmes, tu sais, on va leur donner, mettons, un plus grand accès par rapport à leurs émotions, tu sais, parce que, tu sais, c'est des femmes, mais non, les gars, non, nous autres, on est forts, tu sais, on n'est pas comme ces femmes-là, tu sais, puis on démonise un petit peu cette espèce de démonstration d'émotions-là, mais en fait, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faudrait s'encourager, puis il faudrait se dire, hey, parlons de nos émotions en garçons aussi, tu sais, faisons preuve de vulnérabilité devant l'un et l'autre, tu sais, c'est pas non plus une compétition, ou, tu sais, il faut défaire aussi cette hiérarchie ou cette compétition-là
qui date de très longtemps, souvent, ben, je pense, pour moi, ça prend dès l'école primaire, c'est pas plus tôt, c'est d'apprendre à ne pas pleurer, d'apprendre à être plus fort que les autres, d'apprendre à être plus rapide que les autres, ou, en tout cas, là, je suis dans un autre sujet également, mais...
Ouais, la compétition, là, ouais. Ben, la compétition, je pense aussi, justement, cette compétition-là peut aussi entrer dans les émotions, là, faire... pleurer moins que les autres, être plus fort, tu sais. Ouais, non, je suis d'accord, je pense que c'est un autre sujet, mais pas si éloigné que ça, maintenant.
Toi, par exemple, à quel point te sens-tu à l'aise, présentement, peut-être à démontrer de l'affection envers un autre homme, à être doux, à être vulnérable en présence de quelqu'un d'autre?
Ben, de plus en plus, je pense que je suis capable, tu sais, je déconstruis justement cette idée-là, puis je pense que ça me fait vraiment du bien, pour vrai, depuis que je suis capable de comme parler à d'autres gars de ça, puis je sais pas, juste de même démontrer la douceur, tu sais, je sais pas, comme donner une accolade ou être plus physique, avoir un certain contact, tu sais, faire preuve de comme, hey, genre, je te comprends, puis...
Je pense que le contact physique, c'est l'expression ultime du malaise qu'on a entre hommes, c'est... se toucher,
c'est mal.
C'est mal, c'est pas masculin, c'est pas viril. C'est quelque chose qui va souvent à l'encontre de notre conception du désir masculin. Le désir masculin, il veut quelque chose qui est toujours en expansion. On est l'envahisseur, on est celui qui rentre dans l'espace des autres, mais on veut jamais que quelqu'un rentre dans l'autre, surtout pas un autre homme, en fait. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'on a aussi peur du contact physique entre amis. C'est parce que...
question de domination.
C'est ça. On a notre propre indépendance. On veut pas, donc, se faire envahir par les autres. Puis, à un certain point...
on sent pas de malaise à envahir. Pourtant,
non, c'est ça. Puis, surtout pas parce qu'on rentre dans l'espace des femmes. Puis, je pense que cette espèce de malaise-là avec le contact physique entre les hommes, c'est aussi un grand symptôme de la masculinité toxique qui est souvent homologue à l'homophobie.
Puis, tu sais, c'est pas qu'on est homophobe, mais ça va être le discours qui va revenir. Non, mais tu sais, c'est correct, mais moi, non, je fais pas. Moi, je fais pas ça. Moi je suis un gars, je suis un vrai. Les femmes font ça, les hommes, les gays font ça, mais moi, non, tu sais, moi, je démontre pas ça, mais pourtant, c'est quelque chose qui, je suis convaincu que ça ferait du bien à beaucoup de personnes de le faire, puis comme je te dis, moi, je le fais de plus en plus, je suis de plus en plus à l'aise à démontrer comment je me sens, à être triste, atteint, tu sais, par une situation ou par un événement, puis je pense que mes skills de communication grandissent, puis j'en suis tellement reconnaissant, je suis de mieux en mieux de plus en plus de facilité à reconnaître mes émotions là-dedans. Puis,
Surtout au départ, il y a un grand point pratique à exprimer ses émotions avec d'autres hommes, puis à se montrer vulnérable devant eux. C'est que je sais que moi, ça me fait du bien parce que des fois, ça me fait même plus de bien que de le faire avec des femmes, parce que de voir un homme qui me comprend puis qui ressent les mêmes vulnérabilités, ça me permet de pouvoir, d'un, savoir que quelqu'un vit les mêmes choses que moi alors qu'il a les mêmes prédispositions. C'est quelque chose qui est rassurant, c'est quelque chose qui est réconfortant, puis c'est quelque chose que souvent je pense qui n'est pas le cas. Des fois, je me demande pourquoi est-ce que moi, j'ai ce genre d'émotion-là, parce que moi, je suis triste à cause de ça, tu sais. Pourquoi est-ce que je vis cette tristesse-là? Ou...
Puis, c'est ça, de comprendre, en fait, non seulement que quelqu'un peut être dans la même situation que toi, mais qu'un autre gars a aussi déconstruit son idée qu'un autre gars pouvait pas être vulnérable devant lui, ça te fait du bien, I guess, de juste accepter ça ou voir que, hey, regarde, il y a quelqu'un d'autre qui me comprend là-dedans. Puis ça, je pense que ça... Je sais pas, ça donne naissance à un calme ou une paix. Moi, dans mon cas, c'est ça qui se passe. Comme je t'ai dit, j'ai de plus en plus facilité à mettre les mots sur mes émotions. Je me sens de plus en plus calme, de plus en plus en contact avec mes émotions surtout. Puis ça, ça me fait beaucoup de bien. Je pense qu'on devrait pas avoir de difficultés à dire comment on se sent devant les autres gars. Puis aussi, dans une condition inverse, dans une situation inverse, quand on n'est pas à l'aise avec ce que quelqu'un fait ou ce que quelqu'un dit, je pense qu'on pourrait le dire. D'ailleurs, je pense que ce serait un bon point à faire en la responsabilisation entre garçons, tu sais. Non seulement parler de comment on se sent, mais de dire aux autres que, hey, peut-être que ces actions-là étaient plus ou moins correctes ou totalement inacceptables, tu sais. Pas avoir honte, tu sais, se lever ou dénoncer, tu sais, les actions.
C'est intéressant parce qu'on parlait de compétition, tout ça, puis... C'est ironique parce qu'il y a un truc qu'on hésite à faire, c'est se montrer fort devant d'autres hommes, c'est s'imposer lorsqu'il y a quelque chose qu'ils disent ou qu'ils font qui n'est pas correct, qui est objectivement mal. Là. Puis là, ça va être souvent du harcèlement, du catcall dans la rue, des jokes sexistes aux dépens des femmes.
En chum, tu sais, en gars, non, en mais tu sais, c'est une joke. C'est
pas, tout ce qui est le locker room talk.
Ouais, là. C'est ça.
Puis, semble-t-il, c'est très... Ben, semble-t-il, en fait, moi aussi, je trouve que c'est très difficile de responsabiliser quelqu'un d'autre, de le tenir, de tenir responsable de ce qu'il vient de dire, puis de stand-up devant...
De confronter. De confronter d'autres garçons. Je veux dire, on sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Je veux dire, il y a tout le temps une notion de, comme, tête-à-tête, puis genre, justement, cette notion de domination-là, je trouve qu'elle s'instaure vraiment rapidement dans une confrontation garçon-garçon, puis on peut en venir... vraiment facilement la violence physique, une intervention genre des coups de poing très 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 rapidement ou juste comme, tu sais, pousser l'autre parce que ouais, tu sais, ça c'est des gars, puis
confronter, c'est difficile. J'ai toujours peur de l'agressivité des autres hommes, mais encore plus que ça, je pense que j'ai peur de me faire ridiculiser dans les propos que je pourrais amener, ou j'ai peur que ce soit honteux de ma part de dire que mettons, un joke sexiste qu'un autre homme vient de faire est déplacé, tu sais. Puis souvent, c'est dommage parce que c'est aussi notre responsabilité de le faire. C'est beaucoup plus crédible quand ça vient de notre part qu'une joke qui est au dépens des femmes. Le gars va se dire, c'est normal que je me faire dire par une femme que c'est déplacé. C'est
parce que les femmes ne comprennent pas.
C'est à nous de le dire à cet homme-là, non, je suis un homme, puis moi aussi je pense que c'est déplacé, puis je pense pas que tu devrais dire ça. Je pense pas que les hommes, on devrait dire ça.
Non, c'est ça, parce qu'en disant rien, finalement, on approuve un peu le message. Tu sais, bof, ça nous paraît comme inutile. Puis je pense que ça démontre, c'est vraiment ce qui démontre... d'une certaine manière, notre privilège, c'est notre privilège de rester passif devant des situations où on ne vit pas ces conséquences-là, tu sais. En tant que femme, ça peut être ultra dégradant, tu sais, juste vivre, entendre une joke comme ça, c'est irrespectueux dans tous les cas, puis je veux dire, c'est inacceptable, mais en tant que garçon, ce n'est pas nécessairement vers nous, puis justement, tu sais, comme je dis, le privilège, je pense que c'est notre pouvoir rien faire là-dedans, puis de pas être atteint.
Le privilège de rester passif, non, j'aime ça comment tu le dis, parce que c'est gratuit pour nous, rien faire. On s'en retire sans aucune conséquence. Mais il y a toujours un coût. Il y a toujours un coût à ces micro-agressions-là pour une femme, parce que ça les draine quotidiennement. Puis nous, on s'en sort sans jamais avoir à vivre ça.
Exactement.
Même que si jamais on est peu éduqué sur le sujet, ben on s'en sort sans même s'en rendre compte que c'est arrivé. T'sais.
Puis je trouve que de faire, je pense, cette petite action-là, ou faire quelques actions comme ça, ou même de s'impliquer, ou d'être plus à l'écoute dans des discussions avec des filles, des femmes, par rapport à ce genre de blague-là, ou le catcall, ou juste le fait d'en discuter, ça sépare les gens qui veulent s'étiqueter pro-féministe, mais juste pour l'étiquette, puis juste pour la validation des autres, d'une personne qui veut réellement avoir, tu sais...
C'est très facile.
Une implication minime, ou tu sais, un petit peu plus que juste dire, ah oui, moi je suis pro-féministe parce que, ah oui, Corias, il vient chanter, puis
ouais, non, j'aime ça ce que tu dis, puis non, mais c'est un bon point parce que, puis j'ai pas envie de pointer du doigt parce que je me pointe moi aussi, puis je suis très très coupable de ça.
Ouais,
mais
moi aussi,
c'est très très facile de ne pas faire de blagues sexistes, c'est très très facile de ne pas harceler une femme, de ne pas catcall dans la rue comme on disait tout à l'heure. Le réel défi, c'est de responsabiliser les autres lorsqu'ils le font, puis d'avoir une voix vive par rapport à ça. Puis moi, je l'ai fait très peu dans ma vie. Là. Je peux compter sur mes doigts le nombre de fois où est-ce que j'ai dit ou est-ce que j'ai exprimé à voix haute que quelque chose était déplacé à un autre homme.
T'sais, on s'identifie allié, mais finalement, les vraies actions ou la vraie manière qu'on peut se marquer comme étant allié ou juste faire des actions, ce serait en faisant ce qui nous tente pas. T'sais, ce serait de confronter puis d'aller direct dans... T'sais, je sais pas, dans le vif du sujet, quand il y a quelqu'un qui fait ses blagues, justement, parce que, comme on a parlé.
C'est ça, parce que lorsque oui, on arrête de faire des blagues sexistes, on arrête d'harceler tout ça, on arrête d'être un problème, entre guillemets, mais on n'aide pas vraiment à la cause tant et aussi longtemps qu'on n'influence pas notre entourage puis les autres hommes qui sont autour de nous.
Responsabilité, tu sais, c'est ça, la notion de responsabilité sociale ou collective, tu sais.
C'est ça. Puis je reviens encore à ce que tu disais, parce que je pense que le terme est parfait, là, mais c'est la différence entre passif et être actif dans ce genre de situation-là en tant qu'homme. C'est un des points les plus importants sur lesquels on doit travailler, je crois. Puis pour faire un loop, peut-être revenir au début, c'est un des points sur lesquels l'annonce de Juliette a au moins trouvé le mille, dans le sens parce que l'annonce montre tout au long des hommes qui sont en train de caler d'autres hommes, qui sont en train d'intervenir.
Exact.
Puis apparemment, c'est cette notion-là qui
fait mal, tu sais.
Qui est la plus dangereuse. C'est celle qu'on ridiculise le plus souvent de la part des hommes qui ont réagi négativement à cette annonce-là.
Ouais, exact, ouais.
Alors que c'est un des points les plus importants. Mais on commence à comprendre pourquoi la confrontation est aussi difficile lorsqu'on voit à quel point elle est ridiculisée, mais elle est tellement nécessaire.
Exact, ouais, elle est vraiment... Ouais, je suis d'accord. Wow, cool. OK, ben je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, je reviendrai sur le simple fait que remettre en question notre identité masculine, sociale, notre identité collective n'est vraiment pas destructeur. Au contraire, je pense qu'il est important d'accepter une critique. Je pense qu'il est important de valoriser la communication de ce genre de notions-là, de ce genre de discours, d'action en gars. Puis je pense qu'il est vraiment, vraiment important de rester intègre là-dedans puis de pas trop s'enfler la tête avec le mot pro-féministe ou allié d'une cause sans vouloir faire les grands...
Oui, parce que parler, je l'ai fait longtemps, mais les actions concrètes, la remise en question, comment est-ce que ça commence, je crois, c'est justement en réévaluant chacun des comportements desquels on a parlé, et même plus, là, voir comment est-ce que nous, on réagit, comment est-ce que nous, on se comporte dans ces situations-là, comment est-ce qu'on approche les femmes, autant mentalement que socialement, lorsqu'on leur parle, comment est-ce qu'on les traite dans des relations qui sont sexuelles ou qui sont amoureuses ou qui sont romantiques, etc. Ou dans n'importe quelle autre relation, des relations de travail, des relations d'amitié, puis comment est-ce qu'on se comporte face à d'autres hommes également, comme on a parlé.
Ouais. Ouais.
Ça, c'était Dissonance.
Yes.
en vente au Renault Bré à côté de chez vous.
Puis prochaine visite avec Mike Ward au musée Grévin.
On risque de faire une diffusion en direct sur Twitch, sur soit mon compte, soit on va se créer un compte pour une dissonance. Ouais, pour en discuter davantage avec n'importe qui.
Parce que on pense important d'être en interaction constante avec les gens qui nous écoutent. Puis tu sais,
si les gens voient qu'est-ce qu'on a dit qui était pas correct, ce qui était correct, ce qui a touché une mise, ce qui a passé dans le bar.
Ouais.
Mais sinon, c'était ça. Merci de nous avoir écoutés. Moi, c'était Philippe Marcet.
Et moi, Zachary Bernatchez.
Wow. Ciao.
Félicitations.
Ciao.